Très chers frères et sœurs, ces lectures nous parlent de la vocation. Et souvent, en ce dimanche où nous entendons ces passages de l'Écriture sainte, dans l'homélie, on explique et on approfondit notre vocation de croyant et nos vocations personnel dans la vie. Lorsqu'on lit le passage de l'Évangile selon saint Jean, on remarque que chacun de ses disciples que le Seigneur appelle répond à cet appel, à cette invitation, en faisant une confession de foi, c'est-à-dire en disant ce qu'il découvre dans la personne de Jésus. Et en regardant l'ensemble de ce passage, de ces deux premiers jours du ministère de Jésus, on s'aperçoit que ce sont sept confession de foi au Christ, de foi en Jésus. Et aujourd'hui, dans l'Évangile qui nous a été lu, ce n'est qu'une partie. Si nous avions pu entendre l'ensemble, nous aurions entendu cette description de ce qu'est Jésus dans l'histoire du monde et donc pour nous. Le premier titre que l'évangéliste Jean cite, c'est « L'agneau de Dieu ». Et c'est un titre qui est cité deux fois. Et la première fois, Jean le Baptiste ne dit pas seulement « L'agneau de Dieu », il dit « L'agneau de Dieu » qui porte ou qui enlève le péché du monde. Et vous reconnaissez la prière que nous dirons tout à l'heure à la messe avant la communion, où nous disons « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Le deuxième titre, c'est « Rabbi », maître. Le troisième, c'est le Messie, ce qui est traduit le Christ, autrement dit, celui qui a reçu l'onction qui lui donne le pouvoir, mais le pouvoir reconnu comme transmis de Dieu, c'est-à-dire comme une responsabilité que l'on doit réaliser dans le sens de Dieu qui nous l'a conféré, qui a conféré cette responsabilité à Jésus. Le quatrième titre, c'est le prophète, celui que Moïse et tous les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé. Ensuite, c'est le Fils de Dieu et le sixième roi d'Israël, et le septième fils de l'homme. C'est un petit credo, ou, disons-le d'une manière plus juste, un grand credo, la première reconnaissance pleine de ce qu'est Jésus, que l'évangéliste a placé au début de son évangile. Nous entrons en quelque sorte plein pied dans la foi au Christ, lorsque nous ouvrons cet évangile. Nous n'avons pas le temps ce matin d'expliquer et d'approfondir ces sept titres, ces sept descriptions, ces sept révélations de ce qu'est Jésus pour nous. Je vais simplement prendre les trois que nous avons entendus dans notre extrait. de ce portrait de Jésus, de ce portrait révélé de Jésus, et dire brièvement ce qu'est l'agneau de Dieu, ce qu'est le maître, le rabbi, celui qui enseigne, et ce qu'est le Messie. L'agneau de Dieu fait allusion à l'agneau de la Pâque, de la première Pâque d'Israël qui sauve le peuple. Nous pouvons le savoir lorsque nous lisons l'ensemble de l'Évangile où Jean le fait allusion à l'agneau pascal à la fin dans le récit de la Passion. Cela fait donc comme deux piliers, l'agneau de Dieu au début, l'agneau de Dieu dans la Passion après la mort de Jésus, deux piliers qui portent tout l'Évangile de Jean. L'agneau pascal est l'agneau qui protège le peuple, qui lui sauve la vie. Mais il lui sauve la vie, non pas en faisant la guerre, en anéantissant les ennemis, mais en prenant sur lui la mort pour éviter, pour épargner cette mort à ceux qui, en un sens, l'auraient mérité par leur péché, leur faute, leur opposition, leur rébellion contre Dieu, au lieu de les accuser, de les tirer devant le juge. C'est le rôle de Satan, qui est l'adversaire, qui veut amener les gens à leur perte en les traînant devant le tribunal. L'agneau de Dieu, le vrai sauveur, il préfère prendre sur lui non pas la peine, mais tout ce qu'il faut pour épargner aux fautifs, aux coupables, la peine. Comment savons-nous cela ? L'agneau, nous l'avons encore dans nos fables que nous connaissons depuis notre enfance, l'agneau n'est pas un lion, il n'est pas une ours en colère. C'est l'animal qui symbolise et représente la douceur, qui met la douceur à la place de l'agressivité, qui est si profondément enracinée dans nos êtres. Et cet agneau est donc le sauveur, mais le sauveur dont l'instrument du salut n'est pas la guerre, n'est pas l'anéantissement de l'ennemi, c'est la douceur qui veut gagner l'ennemi pour faire la paix, la réconciliation avec lui. Le maître, Jésus est notre maître. Et il suffit ici de deux mots pour dire ce qu'est un maître, c'est ce très beau rôle que nous pouvons, chacun de nous, nous pouvons jouer dans nos vies lorsque nous partageons notre savoir, notre expérience, non pas pour briller devant les autres, mais pour édifier la vie des autres. Le rôle du maître, c'est des parents, du père, de la mère, des instituteurs, institutrices, des professeurs, des maîtres d'apprentissage, c'est de partager ce que nous avons en nous pour en faire profiter d'autres qui sont plus jeunes que nous, qui n'ont pas encore atteint, qui n'ont pas pu encore apprendre, et nous donnons largement de ce trésor que nous avons modestement, parce qu'un maître doit être humble, sinon il repousse ses étudiants, ses apprentis, ses enfants, s'il fait le fier, il faut qu'il donne naturellement, sans en avoir l'air, tout ce qu'il peut communiquer pour le bien de ceux qui suivent. Et j'en viens au Messie qui a reçu l'onction, et ici permettez-moi de ne pas l'expliquer par une définition, mais je veux vous raconter une légende qui est liée à ma ville où j'ai grandi, et j'ai été amené par mes parents un dimanche dans un cloître qui a survécu à la réforme de cette ville, et ce cloître existe toujours, et où un peintre moderne a représenté cette légende, et je l'ai vue tout petit gamin, et elle est restée en moi, et elle exprime parfaitement ce qu'est le roi qui a reçu l'onction de Dieu, le pouvoir que Dieu lui a confié. On y voit dans ce cloître, sur cette peinture, Charlemagne. C'est lui le héros de cette légende. Il était vénéré à Zurich au Moyen-Âge comme un saint. Il est assis à une table avec ses ministres et on le voit, la table est richement garnie et on voit que sur la nappe de la table, il y a un petit serpent blanc, tout petit, tout mince, qui arrive devant Charlemagne. Et on voit que toutes les personnes réunies autour de cette table s'étonnent, Charlemagne y compris. Charlemagne regarde et comprend que ce petit serpent vient lui demander quelque chose. Il se lève et tous ses ministres avec lui et on voit la deuxième fresque. Ils sont descendus du château qui est sur la hauteur, le Lindenhof. Ils descendent au bord du lac où il y a des roseaux et on voit au milieu des roseaux un nid où il y a un vilain crapaud qui est gros et qui a le regard méchant assis sur ce nid. Charlemagne regarde et comprend que c'est le nid où le petit serpent a déposé ses œufs, ses enfants. Et il comprend que le crapaud veut manger ses œufs. Il prend son épée et il décapite le crapaud. Ensuite, troisième fresque, on voit de nouveau Charlemagne assis à la table, entouré de sa suite. Et de nouveau, on voit le petit serpent sur la nappe se rapprocher du roi. Et cette fois-ci, il grimpe le long de la coupe que Charlemagne a devant lui. Et on voit que le serpent a un petit anneau d'or dans sa bouche et il laisse tomber cet anneau dans la coupe du roi. Voilà la légende. Nous comprenons que cette légende dit ce qu'est le bon roi, le Messie, celui qui comprend la nature juste et authentique de son pouvoir. Il est là pour protéger le faible. Il investit son pouvoir au service de la justice. Il met en place le pouvoir inique. Pour cela, il se sert de sa puissance. Mais sa puissance n'est pas au service de lui, mais il est au service du petit qui a besoin de son aide. Et c'est ainsi, dans ce règne de justice, que la paix peut s'établir. Voilà ce qu'est le Messie. L'agneau de Dieu, le Maître, le Messie. Voilà ce qu'est Jésus pour nous. Et nous pourrions, et vous pouvez le faire cet après-midi, si au lieu de regarder la télévision ou les WhatsApp qui arrivent, vous lisez le chapitre premier de Saint Jean et vous prenez encore les quatre autres titres, les quatre autres dignités que Jésus a reçues selon les premiers disciples qui confessent ainsi leur foi.